La main verte avec Ocofen, le spécialiste de la chaudière à granulés de bois. Le confort d'un chauffage moderne et écologique, à retrouver sur ocofen.fr.
La main verte d'Alain Baraton. Bonjour mon cher Alain.
Bonjour mon cher Eric, bonjour Karine, bonjour à tous.
Bonjour, on part en Dordogne ce matin. Vous dites que c'est un département qui est réputé pour la beauté de ses paysages.
Bien sûr, et pour sa gastronomie et pour ses jardins. Quand on parle de Dordogne et de jardins, on évoque le plus souvent Erignac, Marquessac ou encore Hautefort. Mais il en existe aussi de très différents, comme le jardin d'Élis-Œuvre, qui a la particularité de laisser pousser des œuvres d'art. Labellisé remarquable en 2014, cet art, boretum en deux mots, présente une vingtaine d'arbres centenaires originaires d'Asie et d'Amérique, et des œuvres d'art contemporains, des installations visuelles et sonores. C'est particulier, parfois charmant, parfois déroutant. Alors autrefois, maison bourgeoise du 19e siècle, l'endroit fut transformé en école ménagère dans les années 1950. J'adore cette notion d'école ménagère. Puis en annexe du lycée agricole de Périgueux. En 1995, pour être précis, le conseil général vend à une famille d'artistes, et quand je dis une famille d'artistes, les parents et les enfants, le site qui fait des 12 hectares de friches, un atelier jardin de création.
Et à qui doit-on ces transformations ?
À Alain Pio di Massimo, Monica Reboul, les parents de Claude, et Michel Pio et de Lorenzo, et c'est lui qui m'a donné envie de vous parler de cet art boretum. Le jardin d'Élis-Œuvre est sur la commune de Saint-Médard-d'Exileuil en Dordogne. Il est ouvert tous les jours de l'année de 15h à 19h et important, très important, l'entrée est gratuite.
Ah mais on va pas s'en priver alors. Alain, vos conseils aux auditrices et vos réponses aux questions des auditrices et auditeurs d'Inter. Avec Martine pour commencer. Martine a un jardin qui est envahi par la porcelle enracinée, vous nous direz ce que
oui.
C'est. Et compte tenu, dit-elle, de la surface du jardin, hein, plus de 1000 m², il m'est difficile d'arracher les racines une par une. Alors, y a-t-il un moyen efficace de limiter la prolifération de cette porcelle enracinée?
Porcelle enracinée, c'est le nom de la plante. On ne dit pas d'une porcelle qu'elle est enracinée. Mmh. C'est véritablement le nom. Pour la décrire, on fait simple. C'est comme un pissenlit qui a une tige un peu plus haute que les autres fleurs. Elle fleurit jaune. C'est vraiment semblable à la fleur de pissenlit. Si je faisais du mauvais humour, pour bien distinguer les deux, vous mangez la fleur de porcelle enracinée. Dans les heures qui suivront, vous verrez la différence. Alors, c'est une plante qui effectivement a des racines costauds, d'où le nom d'enracinée, et lutter avec elle de manière mécanique n'est pas simple. Alors moi, je conseille simplement un petit truc. Vu qu'on ne pourra pas lutter avec les produits, vu que la binette, 1000 m², 2000 m²,
c'est
ne répond pas, alors il y a une solution. On retourne la terre avec une machine, un motoculteur, et on met en très grosse quantité par exemple de la luzerne. La luzerne a l'avantage de restituer l'azote au sol, donc c'est très très bon, et d'étouffer la prolifération de ce type de plante. À défaut d'avoir une prairie verdoyante, on peut éliminer la porcelle en mettant à la place d'autres plantes comme certaines graminées ou comme quelques légumineuses.
Lucien voudrait déplacer son Dragunculus vulgaris. Comment faire ?
Alors c'est une plante assez étrange. C'est un spade qui sort d'une feuille comme enroulée. Vous voyez les arômes ?
Mais c'est beau ou pas ?
Comment ?
Est-ce qu'on veut savoir si c'est beau ou pas ?
C'est un peu douteux. C'est d'apparence un peu phallique, je reconnais. Ah. Imaginez un arôme de couleur rouge pour vous situer, sauf que la tige serait beaucoup plus basse. Elle démarrait presque au niveau du sol. Mais il y a un problème avec cette plante, c'est l'odeur. Cette plante, pour la pollinisation, fait appel aux mouches, mais aux vilaines mouches. En un mot, cette plante, elle sent... Eh oui.
On a compris.
On a bien compris.
Donc, alors, on va l'éloigner, bien entendu. Eh bien, c'est à faire prioritairement maintenant, en septembre.
La catastrophe faite par Aline avec un coupe-bordure, elle vient de couper, par maladresse évidemment, les deux tiges de sa clématite plantée il y a 2 ans. « Je suis très triste de ma bêtise », écrit Aline. Alors pensez-vous, Alain Baraton, qu'elle va repousser au printemps prochain ? Ou est-ce que je peux faire aussi des boutures avec les tiges qui restent, les tiges coupées en fait ?
Non, on aurait pu faire des boutures à partir des tiges, des boutures dites outées, il aurait été possible de le faire, mais des boutures ne s'improvisent pas. Est-ce que la plante va repousser ? Je vais vous faire un mea culpa. J'ai, au pied d'une petite cabane dans un jardin, un magnifique pied de clématite Nelly-Moser, une plante superbe. Et il y a 2 ans, maladroitement, moi aussi, j'ai coupé les tiges. J'étais un peu, moi aussi, catastrophé. Cette clématite me rappelait mon grand-père. Et je ne suis pas intervenu. et elle a repoussé. Donc un peu de patience, mais avec un petit peu de chance, elle va redémarrer.
Marie-Laure, je sais que vous n'aimez pas beaucoup les Occubas, Alain Baraton, mais tout de même, dit Marie-Laure, je voudrais savoir comment sauver le mien qui est très ancien. Ses feuilles deviennent jaunes et tombent, il dépérit. Est-ce qu'on peut le sauver ?
Oui, Karine, je dois avouer qu'en mai ou en juin, j'ai qualifié l'Occuba de plante uniquement bonne à orner les quais de gare. Je sais que c'est pas très aimable pour la plante.
Ni pour les quais de gare, qui peuvent être pas mal.
Oui, peut-être. C'est pas une plante qui est très très belle. Là encore, on a encore les conséquences de la pluie. Il ne cesse de pleuvoir. La plante a du mal à trouver de quoi se nourrir. Elle produit des carences. Et à quoi voit-on les carences ? Aux feuilles qui se décolorent. Chaque fois que vous avez sur une plante la décoloration des feuillages, le problème vient du sol. Ce n'est pas compliqué.
Mais donc il faut donner un peu d'engrais naturel, par exemple ?
Oui, et l'utilisation de se souvenir que le compost est le meilleur engrais. Ne jetez pas vos feuilles, faites un tas au fond du jardin, répandez le terreau en automne, enfouissez-le, et vous verrez, vous n'aurez vraiment que du bonheur.
Alain, on va terminer par une balade ?
Oui, à Paris. J'aurais souhaité qu'on aille saluer de ma part le petit marronnier qui pousse dans le jardin Anne Frank. Le jardin Anne Frank, il est dans le Marais, et un marronnier a été planté il y a quelques années, un marronnier directement produit par un fruit qui poussait sur l'arbre que Anne Frank voyait de l'appartement où elle vivait recluse. Et aller voir ce marronnier, c'est se souvenir qu'il y a autrefois des barbares qui ont fait des choses épouvantables et qu'il y a un arbre qui nous le rappelle.
Merci Alain Baraton. À samedi prochain.
À samedi.